change les femmes, la femme est changée, va dans le clan du père. On a beaucoup confondu les sociétés patrilinéaires et matrilinéaires, les sociétés patrilocales et matrilocales. Contrairement à ce qu'ont pu dire les féministes du début du siècle, il ne semble pas qu'il y ait eu des sociétés matriarcales. Par contre, vraisemblablement, les rapports de domination des hommes sur les femmes ont varié d'une société à une autre, d'une époque à une autre. Il n'y a pas d'évolutionnisme tout bête. On n'est pas plus progressiste aujourd'hui forcément qu'à 300 ou 400 ans. Il y a des périodes au Moyen-Âge où les rapports hommes-femmes étaient moins dominants sur certaines sphères que maintenant. On est sur la paternité, j'y reviendrai tout de suite après, et sur la gestion du pouvoir sur les enfants dans une société qui se distingue du patriarcat. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un couple a un enfant que le père a tout le pouvoir sur les enfants. Et au contraire, on le voit avec les associations réactionnaires de pères divorcés, c'est un objet de conflit, le pouvoir sur les enfants, la garde des enfants, etc. etc. En plus, une autre difficulté, c'est qu'un terme qui est utilisé par des savants ou des savantes et par les mouvements sociaux a tendance à être fortement connoté. Moi, j'écoute certaines analyses féministes ou pro-féministes et souvent, j'entends de la morale et non pas de l'analyse. Et quand on a travaillé sur les violences, quand on sait que moi, j'ai une copine qui a vécu l'inceste de 2 ans et demi à 18 ans, elle n'est pas très tendre pour les garçons, je vous le jure. Quand on travaille avec les collectifs de femmes qui ont vécu le viol ou l'inceste, quand on voit ce qu'ont vécu certaines femmes, on comprend qu'il y a certaines critiques qui soient largement chargées émotivement. Et qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas, ou qu'elles n'arrivent pas à expliquer scientifiquement, mais qu'elles ont senties. Et donc la difficulté quand on est scientifique, c'est de pouvoir se dégager un petit peu de cette pression-là pour arriver à se créer un espace d'analyse. Et d'essayer, autant que faire se peut, même si on est proche des mouvements sociaux, et mon groupe de recherche, on est très proche des mouvements sociaux, et on veut l'être, essayer d'avoir des analyses qui ne soient pas des analyses morales. Alors, quand on regarde comment on parle du masculin et du féminin dans nos sociétés, et là je reprends les analyses de Mathieu, on se rend compte que on a l'impression que les hommes sont assimilés à la culture. En gros, pour les hommes, on parlera de l'intelligence, de l'art de la guerre, de la création, du pouvoir, des manières de contrôle. Ce qui est important pour les hommes, c'est leur création. C'est la construction culturelle et leur production culturelle. Par contre, les femmes, elles, on va expliquer qu'elles sont naturellement belles, naturellement intuitives. C'est-à-dire on va assimiler les femmes à la nature. Et on va prêter aux femmes toute une série de qualités ou de défauts qui seraient intrinsèquement liées à leur nature féminine. Les hommes sont la culture et les femmes sont la nature. Sauf dans la sexualité. Là, il est bien connu qu'une femme ne peut faire l'amour que quand elle aime. C'est-à-dire quand il y a une construction sociale et culturelle autour de l'amour. Une femme qui nous dirait, comme m'a dit une étudiante encore il n'y a pas longtemps, « Tu sais, quand il y a un petit cul, moi je me le ferais bien aussi », celle-là, c'est une salope. C'est-à-dire c'est une femme qui, sans quelque part, trahit ce que doit être ou ce que devrait être une femme respectable. Alors que les hommes, les pauvres, eux ne savent pas résister à leur pulsion irrépressible. Dans la sexualité, les hommes sont la nature, là où les femmes seraient la culture. J'ajouterais, parce que ça c'est les analyses de Mathieu, que quand on étudie le travail, la vie dans l'espace domestique, il y a d'autres lieux où les hommes sont la nature et les femmes sont la culture. C'est la maison. Ah, les pauvres garçons dans la maison ne savent rien faire. Ils sont gauches, ils cassent tout, ils ont besoin d'une maman en permanence pour faire à leur place, pour leur apprendre à faire, mais mieux, pour faire à leur place. Là où les femmes ont un enseignement sur la culture ménagère, l'art ménager, c'est un des rares moments où on accepte que les femmes aient de l'art. Depuis le début du siècle, on a comme ça des traités, faits souvent d'ailleurs par des hommes, sur l'art ménager à enseigner aux femmes. Toujours est-il que, d'une manière ou d'une autre, on divise l'humanité en deux genres, en sachant que chez nous, on divise en deux genres. Méfiez-vous, il y a des systèmes qui divisent en trois genres. Je vous renvoie aux travaux de Bernard Saananglur sur le troisième sexe. Chez les Inuits, alors il y a des articles dans La Recherche, hein, pour celles et ceux qui ont des références, chez les Inuits, 20% des enfants sont socialisés jusqu'à leur puberté comme appartenant à l'autre genre. C'est pire que ça d'ailleurs, parce que chez les Inuits, on n'est jamais que la réincarnation de personne, homme ou femme. Et si par exemple je me réveille demain et j'ai eu un rêve qui fait que quand j'étais dans le vagin de ma mère, j'avais des outils masculins à gauche, des outils féminins à droite, et que comme réincarnation de ma grand-mère, je prends les outils féminins, je suis femme, et je vais être socialisée avec les femmes. Mais je peux être aussi la réincarnation de plusieurs personnes à la fois. Ça, les Canadiens n'ont pas du tout aimé au cours de la colonisation. On n'arrive plus à compter exactement combien il y avait d'Inuits hommes et d'Inuits femmes. Ils ont dépensé une fortune pour qu'on leur apprenne qu'en fait on est une et une seule personne et qu'on ne change pas. En dehors de l'aspect magico-religieux qui légitime l'appartenance à un autre genre, Saananglur montre bien que c'est un problème de sexe ratio. Quand dans une famille il y a trois enfants de suite qui sont des filles, eh bien, logiquement on va éduquer le troisième ou le deuxième comme un garçon. Et alors, il pousse plus loin les analyses, hein, puisqu'il montre que le troisième sexe, c'est le sexe des chamans, et que c'est un sexe de chevaucheur de genre, ou de frontière de genre, et ça va être le sexe des gens qui vont servir de responsables politiques, on pourrait dire ça comme ça, ou de responsables religieux chez les Inuits. Et quand on pousse un peu plus loin, on retrouve ça, y compris dans nos propres sociétés. Et c'est courant qu'à certains garçons, on ait pu dire « t'elle portait tout craché de ta grand-mère », ou à certaines filles, on ait pu dire « t'elle portait tout craché de ton père », ou que regardez un peu vos deuxième ou vos troisième prénoms, et vous verrez que certains garçons ou certaines filles sont, y compris dans nos propres sociétés, socialisés d'une certaine manière où on manipule le genre social. Quand Elisabeth Badinter est née, son grand-père, qui n'avait pas tout compris, a envoyé un télégramme de félicitations. Bienvenue à Isabeau. On a la même anecdote sur De Gaulle, etc. On se rend compte que les hommes des médias, ou les hommes politiques, ou les femmes politiques, vont appartenir à cette catégorie de Saananglur, que Saananglur dénomme le troisième sexe. Autrement dit, le monde n'est pas si binaire que ça. Il faut se méfier des évidences. Alors, les recherches sur le masculin, il y en a peu. Il y a Malinowski et Margaret Mead, hein, qu'on cite chaque fois, je pense qu'ils sont enseignés aussi à Genève, qui ont le mérite, malgré tous les travaux, enfin toutes les critiques qu'il y a eu par la suite, d'être précurseurs et de nous montrer que les attributs du genre varient. C'est-à-dire qu'on peut être doux et chez les Arapesh et méchant chez les Mudugondor, ou l'inverse. C'est-à-dire que les qualités naturel qu'on attribue intrinsèquement ou de manière très essentialiste à un sexe, aux hommes ou aux femmes, ne sont pas l'air si naturels que ça, puisque ça change. Et que à 500 km ou à 1000 km de distance, ça va changer. Malheureusement, ils n'ont pas été suivis par beaucoup d'autres anthropologues. On a, dans les recherches féministes, nous on a l'habitude de nommer trois auteurs, Delphi, Guillaumin et Mathieu, comme fondatrice des études féministes modernes, en tout cas de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des études sur le genre, ou sur les femmes, ou sur les hommes. Mathieu, ça fait depuis 71 qu'elle dit il faut travailler sur les hommes et sur le genre masculin. Delphi, pas trop, elle l'a redit après, mais on a eu plein de féministes qui ont incité les hommes à travailler sur les hommes. Malheureusement, ça n'a jamais fait recette du côté des sociologues ou des anthropologues, sauf quelques hommes. Alors, on peut citer Emmanuel Reynaud, qui a écrit La Sainte Virilité en 76. On peut citer François de Singly, mais qui ne travaille pas spécifiquement sur les hommes, mais qui est un sociologue homme qui travaille sur les rapports sociaux de sexe. On peut citer Godelier. On peut citer maintenant, mais depuis quelques années seulement, Pierre Bourdieu. Mais pour vous donner un peu état d'esprit, en 87, il y avait une table ronde sur les rapports sociaux de sexe à Paris. Il y avait 100 chercheuses et 4 chercheurs. Et contrairement à ce qu'on peut dire, moi, donc, je suis depuis 87 dans les études sur les féministes, on est accueilli de manière toujours très chaleureuse.
Ce sont nos amis les Reines Prochaines qui faisaient un winter rise et un voyage en hiver. Nous, bien sûr, pas du tout. Nous sommes dans un voyage au cœur de la masculinité en compagnie de Daniel Welser-Lang, sociologue, anthropologue à l'Université de Toulouse et qui étudie, qui enseigne les rapports sociaux entre sexes et qui faisait une conférence au printemps dernier sur la construction de la masculinité que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, il disait, chaque fois qu'on a proposé que des hommes se mêlent d'études de genre, eh bien, on n'a pas eu beaucoup de succès. On était dans des conférences, il y avait énormément de chercheuses femmes et on n'était que quelques hommes. Et pourtant, bien sûr qu'ils n'étudient pas forcément les mêmes choses. Daniel Welser-Lang.
Quand on travaille sur le masculin, et vous en aurez des exemples, on ne travaille jamais sur les mêmes objets que les femmes. Nos préoccupations en tant que garçons sont différentes des préoccupations des filles. On n'a qu'à regarder l'ensemble de la littérature féministe. On travaille sur la différenciation au travail, le travail domestique et le travail professionnel. On va travailler sur les violences. Alors, il y a quelques thèmes communs, comme les violences, mais il y a plein de thèmes qui n'ont jamais été étudiés par les féministes sur les femmes, alors que nous, c'est important de les construire. J'ai un étudiant qui, dans le cadre d'échanges Socrates, arrive à Séville. Je crois que c'est Séville, en sud de l'Espagne, donc qui est accueilli très chaleureusement par les études féministes, dans le cadre des échanges, enfin un homme, elles sont contentes et tout. Et donc il a son projet pour faire sa maîtrise de recherche, il travaille avec moi sur les clients de la pornographie, donc il fait de l'observation participant dans les sex shops. Et il demande gentiment, donc les copines lui trouvent une chambre pas chère, lui offrent une place dans un bureau, et il demande où sont les lieux de drague pour mecs et pour couples. Il demande où sont les sex shops, il demande dans quel sex shop il y a de la consommation sexuelle. Les braves dames qui ont 55, 60 ans, qui font des séances d'éducation ou d'économie, se sont rendues compte que les objets sont asymétriques. Et que les préoccupations de nos jeunes étudiants ne sont pas les mêmes préoccupations des jeunes étudiantes. Et que pourtant, si nous, on veut pouvoir déconstruire le masculin et comprendre comment vivent les hommes, comment y compris les hommes reproduisent les rapports de domination avec les femmes, on est obligé de travailler sur des territoires et des objets sociologiques qui ont peu été abordés par les femmes. En tout cas, il y a une disproportion totale entre les études sur les hommes et sur les femmes, même si le fait, les études féministes ne sont pas très valorisées dans les universités. Alors, pour ceux que ça intéresse, en 92, on a sorti avec le CEFUB d'Aix-en-Provence un bouquin qui s'appelle « Des hommes et du masculin », où on a essayé de... c'était moi qui le coordonnais. On a essayé de regrouper un peu les mecs qui écrivaient sur les hommes et le masculin. Donc, vous avez Michel Doré sur l'homosexualité, Richard Poulain sur la pornographie, Michael Pollack sur l'homosexualité. Michael montrait comment l'entrée dans l'homosexualité masculine n'a rien à voir à l'entrée dans l'hétérosexualité. Parce qu'en gros... l'entrée en hétérosexualité est en général sous une forme homogame, alors que l'entrée dans l'homosexualité masculine se fait toujours par l'initiation à l'homosexualité se fait dans la plupart du temps par un plus vieux, avec une différence d'âge très significative. Et puis on a eu un article de Anne-Marie Devreux qui avait commencé à travailler sur l'armée, et je crois... peut-être une autre femme qui a écrit dedans, enfin, c'est essentiellement des hommes. Et on ressort un numéro 2. Des hommes et du masculin, qui s'appellera certainement autrement, en décembre de cette année ou en janvier l'année prochaine, où on essaye à nouveau de collecter des articles d'hommes qui bossent sur les hommes et le masculin. Et dans ce prochain bouquin, qui sortira par l'équipe Simone à Toulouse, on va essayer d'articuler trois choses. Un, des textes des pro-féministes américains, qui bossent depuis longtemps avant nous sur des sujets, même s'ils n'abordent pas tout à fait de la même manière, on n'est pas les mêmes cultures. D'autres textes qui viennent des chercheurs de ma génération qui travaillent déjà sur les hommes et le masculin. Et les troisièmes textes, moi j'ai demandé au collectif antisexiste, au collectif antipatriarcat, anti-homophobie qui existe un peu partout en Europe, de nous faire des textes, parce que je pense que le problème de la transmission est important, que je sais qu'à Genève ça existe, mais que dans d'autres grandes villes il y a des mouvements mixtes qui ont reproblématisé à leur manière les rapports de domination des hommes sur les femmes ou les rapports d'hétérosexisme. Et je pense qu'il est important qu'on puisse débattre entre générations et qu'on arrête de faire croire qu'il y a quelques personnes seulement qui travaillent sur le masculin et que tout se passerait en milieu académique. Alors, sur le masculin, j'aimerais aborder trois ou quatre notions successives. La notion de travail, la notion de parentalité et de paternité, les notions de sexualité et de corps. Rapidement, je l'aborderai plus longuement cet après-midi avec les étudiantes du DES, les violences des hommes sur les femmes, et en même temps le concept d'homophobie, qui à mon avis permet d'articuler ce que vivent les hommes entre eux et ce que vivent les femmes de la part des hommes. Et c'est vrai que bon, je pense que c'est plus intéressant de travailler sur ce qu'on a de commun que de travailler sur nos différences. Sandra Behm, aux États-Unis, qui faisait remarquer que c'est quand même bizarre. La plupart des écrits sur les hommes et les femmes nous montrent les différences, au lieu qu'on travaille sur les points communs. De toute façon, quand la nature ne nous montre pas des différences assez importantes, la culture vient en rajouter une louche. Vous n'avez qu'à penser au rapport aux poils et aux femmes. Comment on s'arrange pour que les femmes ressemblent vraiment aux femmes et non pas à des hommes? Comment on s'arrange pour qu'elles n'aient pas de poils aux jambes, qu'elles n'aient pas de moustache ou pas de poils au menton? Et comment, mais vraiment par une pression esthétique, mais des menaces, si tu gardes ta poil aux jambes, tu ne trouveras jamais d'homme, tu ne trouveras pas de mari, etc., etc. Comment, au niveau culturel, on rajoute de la différence qui serait soi-disant naturelle? Il y a plein d'exemples comme ça, c'est... les sociolinguistes qui ont travaillé aussi sur la voix, le timbre de la voix. On se rend compte qu'on a un corps qui est biologique, qui est physiologique, mais qui passe aussi à travers les filtres du social. Moi, je suis toujours épaté quand j'envoie des étudiantes au Québec, parce qu'on est d'accord avec le Québec, comment elles reviennent avec une ou deux statures d'épaule en plus. C'est impressionnant. Et parce que aussi à Montréal, dans les cercles féministes radicales, quand on voit arriver une jeune fille qui est très mignonne, on lui demande le prix qu'elle a payé pour être aussi poupoune. Comment elle a dû se priver de manger, comment elle a dû faire attention, etc. etc. C'est-à-dire que on sait, enfin, les féministes québécoises savent, que le corps, enfin, le respect des normes masculines sur le corps des femmes a un prix. Et qu'en termes d'obligations alimentaires, etc. etc. L'autre exemple aussi, c'est Emmanuel Reynaud qui a écrit un bouquin sur les femmes, la violence et l'armée, qui le donne, c'est le marathon. Le marathon, c'est le sport. Alors, moi, je ne connais rien en sport, j'ai horreur de ça en plus. Mais le marathon, c'est un des rares sports qui est mixte. Et c'est un des rares sports où l'écart de performance. Enfin, c'est le sport où l'écart de performance est le plus faible. Et des physiciennes américaines ont trouvé, dans un article qui a été publié cet été, qu'en réalité, il faudrait faire courir un 15 000 mètres et non pas un 10 000 mètres pour que les femmes soient supérieures aux hommes. Dans les schémas musculaires, d'oxygénation, etc., il semble bien que le découpage en catégories de courses fait que là encore, on s'arrange pour que les hommes... Alors d'abord, on s'arrange que les femmes ne puissent pas se comparer aux hommes. Et en plus, on s'arrange pour que dans ce type de sport-là, ça soit forcément les hommes qui gagnent. Alors, la parentalité du côté des hommes. Il y a quelqu'un que vous devez peut-être connaître ici, parce qu'il est assez populaire, il fait un bon business, Guy Corneau. C'est un copain de Montréal qui a monté un business sur les groupes d'hommes. On ne peut pas dire qu'autrement. Il a emprunté beaucoup d'analyses qui viennent des groupes d'hommes antisexistes, ou des groupes d'autoconscience, et il fait un travail conséquent, on dira comme ça, d'accompagnement social des hommes qui sont un peu en question, en crise, notamment les 35-50 ans. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des jeunes amis féministes à 20 ans, et qui se retrouvent un peu remis en cause sur le coup de la quarantaine. Et bon, donc il fait des groupes de thérapie un peu New Age, où on tâte le nombril à gauche, à droite, mais c'est bien, hein. On parle de ce qu'on ressent, il montre que les hommes ne parlent pas d'eux, de leurs émotions, etc. Donc, il fait un vrai travail. Il organise des week-ends, ça vaut 2 à 3 000 francs le week-end, mais c'est de qualité. Bon. Et il a monté une organisation qui s'appelle Réseau Hommes Québec, Réseau Hommes France. Alors, peut-être que ça doit venir en Suisse, je suppose, Réseau Hommes Suisse. Il crée même des groupes femmes maintenant en parallèle. Alors, bon, il montre assez bien, hein, comment on est structuré sur un double modèle. Bon, alors, le modèle classique qui est l'homme pourvoyeur, c'est-à-dire que l'objectif du père, les valeurs attachées à la paternité changent. Le principal pour un père, auparavant, c'était d'être pourvoyeur de sa famille, d'arriver à faire gagner assez d'argent pour que sa femme et ses enfants puissent avoir une éducation normale. Et c'était un modèle du père absent. Alors, je pense que le modèle du père absent est nettement supérieur en Amérique du Nord ou à l'Europe. Il faut imaginer qu'au Québec, par exemple, le père arrivait à faire 5000 km pour trouver du travail et aller bûcheronner dans une vallée lointaine. Ici, même si on le veut, on n'a pas les 5000 km. Mais le modèle du père absent a quand même été marquant. Le père qui allait au travail, qui rentrait le soir, moi c'est comme ça que j'ai eu des relations avec mon père, et qui demandait si les enfants avaient été sages ou pas. Et donc, quand on avait été sage, c'était bien, il ne faisait pas grand-chose. Et quand on n'était pas sage, il essayait de nous corriger de manière à ce qu'on ne recommence pas. Donc, c'est un modèle du père qui passait peu de temps avec ses enfants. Alors que je pense que de ce côté-là, les valeurs de la paternité ont changé. Et qu'aujourd'hui, le temps passé avec les enfants est revendiqué. Donc, c'est Chabot, hein, Marc Chabot au Québec, qui dit que la parole des pères, c'était le silence. Alors, le père est absent, mais le modèle est présent. Et le garçon, dans l'éducation, en regardant son père, il intériorise un modèle de rapport homme-femme. Je ne sais pas si beaucoup de garçons ici ont parlé avec leur père. Moi, pas. On parlait de choses. Hein, il était très content qu'on avait des conquêtes féminines. Il était très content qu'on réussissait nos études. Mais de ce qu'il a vécu, lui, rien. toujours être, quand je fais des interviews avec les personnes âgées, je dis une connerie, avec les hommes qui ont plus de 40 ans, mais c'est compliqué parce que 40 ans, c'est aussi il y a un certain nombre de mecs qui ont fait 68 en France, donc qui ont des essais de changer les modèles, hein. Mais on se rend compte que les hommes vivent très mal cette solitude-là. Les hommes sont seuls. Et que le fait d'être le père fouettard ou le père correction, c'est pas forcément agréable pour un mec. Le fait de pas avoir de temps à passer à ses enfants. Enfin, y a une critique féministe, hein, qui dit que les hommes s'occupent pas assez des enfants, etc. Que la bipartition des rôles masculin et féminin par rapport à l'éducation des enfants, les mecs, quand ils en parlent aussi de manière assez comme un truc qui leur déplaît. Ils auraient aimé passer plus de temps pour eux, mais ils n'ont pas vu d'autres ajustements, d'autres arrangements de modèles qui fait qu'ils auraient pu passer plus de temps avec leurs enfants. L'autre versant de la parentalité, je passe vite, on pourrait y revenir dans la discussion, hein, c'est la paternité de l'homme. Alors, en général, on confond deux choses, la paternité biologique et la paternité sociale. Je signale que pour nous, les garçons, la paternité biologique n'est souvent qu'un présupposé. Je te téléphone.